ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Calade. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mardi 6 décembre 2022 et les conversations à la machine à café commencent aujourd'hui par « Il fait pas chaud hein. ». Et effectivement, il fait pas chaud, autour de 2 degrés dans le Beaujolais et le Val-de-Saône. On espère quelques rayons de soleil dans l'après-midi, mais pas de quoi se réchauffer non plus. Dans notre émission, on va retrouver le coach et ses dilemmes, c'est des vrais dilemmes. Je parle pas de qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce soir, on parle plutôt de dilemmes philosophiques qui font réfléchir. On va terminer notre rendez-vous avec Bertrand Lamure de la librairie Des Marais pour probablement une sélection littéraire. Et avant ça, on va passer un moment avec notre invité du jour. On va parler de l'actualité d'Emmaüs Tarare, une communauté d'une trentaine de compagnons, un bric-à-brac de 2000 m² à Tarare et 2 boutiques supplémentaires à Lausanne et Cours-la-Ville, et surtout des actions en faveur des personnes qui en ont le plus besoin. On va en parler, on va détailler ces actions avec donc notre invitée Magali Chauvet, responsable de cette communauté. Avant ça, on commence notre émission en musique. On écoute La rue qui est à nous, qui nous chante La rue qui est à nous. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous.
C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous.
Maria, Maria.
Non, so eu qui sois la roi, et la roi qui est ça.
Et revons la sourde oreille, en avant la musique.
Chauffe, chauffe, chauffe le soleil,
souffle un vent de panique.
Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la roi, et un roi qui est ça.
Abracadabra, le miracle, on va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir.
Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous.
Oh Maria, Maria, oua.
Non, soyez au sol la roi, et la roi qui est ça. Les gosses sur les épaules, et les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partagez notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la roi, et un roi qui est ça.
Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile.
Et grave dans notre voix, l'empreinte des gouttes de pluie. La chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous.
Maria, Maria, oua.
Non, soyez au qui sont la roi, et la roi qui est ça.
Quel chemin ça,
c'est comme
moi,
des
Maria.
Et le bon bourreau,
C'était la rue qui est à nous sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, avec nous en studio aujourd'hui, Magali Chauvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communauté Emmaüs Tarare. Et on va parler aujourd'hui de ce que vous faites en ce mois de décembre, des actions que vous avez prévues. Pour commencer, pour rappeler la communauté d'Emmaüs Tarare, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la communauté Emmaüs Tarare, c'est d'abord 30 personnes accueillies, qu'on appelle les compagnons et les compagnes. Donc, c'est les personnes qui, pour différentes raisons, étaient à la rue et sont accueillies pour une journée ou pour la vie. C'était le souhait de l'abbé Pierre, le fondateur. Donc voilà, ces personnes sont accueillies et nous vivons de notre activité, exclusivement de notre activité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de subvention étatique. Et l'activité, c'est la réception des dons, des particuliers, parfois des entreprises, et puis la remise en état et la revente de ces dons.
D'accord. Et l'accueil, du coup, est mixte ?
L'accueil est mixte et inconditionnel, donc sans condition de profil. Tous les profils sont accueillis.
Et quand vous dites un jour ou toute la vie, c'est le principe, ça veut dire que vous accueillez de façon inconditionnelle, justement, mais en général, les personnes, elles restent combien de temps ou...
Alors, justement, la liberté d'une communauté Emmaüs, c'est de pouvoir accueillir sans condition de profil, comme je le disais, mais aussi une personne pour une nuit ou deux nuits pour se reposer et repartir. Et puis, la possibilité aussi de rester. Donc, certains vont rester le temps de se remettre en état et de repasser, de réintégrer une vie un peu plus classique. Et puis d'autres font le choix de rester jusqu'à la fin de leur vie, puisque aujourd'hui dans la communauté de Tarare, il y a deux retraités qui ont passé plusieurs dizaines d'années, alors sur Tarare, mais aussi sur d'autres communautés, Emmaüs. Et aujourd'hui, nos modalités d'accueil permettent de justement pouvoir laisser la possibilité à la personne accueillie de finir sa vie avec nous.
Et donc, vous nous le rappeliez aussi, vous êtes totalement indépendant, il n'y a pas de subvention.
Tout à fait, ça c'est aussi la volonté de l'abbé Pierre au début de la création des communautés, c'est de pouvoir garder cette liberté, cette indépendance, la liberté d'expression et la liberté des choix des personnes qu'on accueille, sans contrainte de profil. Et pour ça, c'est notre activité qui doit nous permettre de payer le logement, les fluides, et puis on accompagne les personnes accueillies aussi sur la partie administrative, sociale, santé et loisirs. Voilà, puisqu'on organise parfois des sorties loisirs avec.
C'est
avec
aussi important, ça fait partie de la santé mentale.
Tout à fait, c'est un lieu de vie, c'est une famille et un lieu de vie et d'abri, de protection, ces communautés.
Et donc, il y a toutes ces missions que Emmaüs s'est données. Comment est-ce que vous pouvez les remplir ? C'est quoi vos revenus, du coup ?
C'est l'activité des communautés Emmaüs, c'est de recevoir les dons. Donc, c'est les particuliers qui peuvent nous amener les choses qu'ils souhaitent donner. Ça va de la petite cuillère aux gros meubles. Donc on peut aller chercher au domicile aussi en fonction du lieu et de nos camions disponibles. Alors évidemment, on n'ira pas chercher une petite cuillère, mais on peut aller chercher des meubles et des frigos, une machine à laver, des jouets, puisque c'est la saison. Et puis il y a également des entreprises qui peuvent nous faire don de produits invendus.
D'accord.
Voilà, ou un peu défectueux, et que nous, on va se charger de retaper et de vendre à moindre coût. Voilà. Mais on reste essentiellement sur de la seconde main.
Et je crois que la loi est passée assez récemment, les entreprises n'ont plus le droit de jeter de produits invendus.
Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle la loi AGEC.
Elle a 2-3 ans, je crois, à peu près.
Oui, avec des adaptations récentes, notamment sur ce qui concerne les jouets. D'accord. C'est une nouvelle filière de recyclage. pourrons peut-être en parler un peu plus en détail
à
une autre occasion. Mais voilà, puisqu'on est dans la période de Noël, il faut savoir quand même les jouets, c'est un peu comme les livres et les vêtements. C'est on en parle peu sur la surconsommation des jouets neufs en plastique et autres. Et les communautés Emmaüs reçoivent beaucoup, beaucoup de jouets. Qui sont parfois en très bon état, donc on peut remettre directement en vente, et puis d'autres qu'on va réparer ou compléter, puisqu'on a un stock de pièces qui nous permet de compléter les jeux de société ou des dinettes.
Quand il y a un Monopoly qui arrive et qui manque des billets.
Exactement, on sait exactement combien il y a de billets dans le Monopoly, et on va compléter. On a une équipe de bénévoles, en particulier à Tarare, là, qui est vraiment spécialiste des jeux de société. Et des jouets, on a beaucoup de Playmobil et de Lego aussi, donc on est capable de refaire un château fort en Playmobil si jamais le produit qui nous a été amené est incomplet. On remballe tout ça et
Génial.
Voilà. Et tout ça pour à peu près le entre le tiers et la moitié du prix en fonction de l'état. Voilà.
Et donc on peut vous donner des jouets ou des jeux de société même s'il manque
quelques petites pièces.
Ça c'est pas un souci.
Tout à fait. Et si ça les clients le savent pas forcément, mais si un client à qui il manque une lettre de Scrabble, il peut venir chez nous, on lui fournira la lettre manquante, il y a pas de problème.
D'accord.
Donc voilà, alors c'est les jouets, puisque c'est la période où on a notre grande vente de Noël qui a lieu ce dimanche à la communauté de Tarare de 10h à 17h30, avec une grosse partie jeux et jouets, mais pas que, puisque comme d'habitude, on a de la brocante, des antiquités, des meubles, un petit peu d'électroménager. Cette fois-ci, parce qu'on a eu des dons aussi de ce type-là, on a pas mal de bricolage, outils et puis matériaux de construction, un petit peu de bâtiments, des fenêtres, des volets, des portes de parking. Voilà. Il se trouve qu'on a eu un arrivage important de produits neufs de ce type-là. Et effectivement, un gros stand de jouets et jeux pour tous les âges, toutes les catégories. Ça vous permet de faire un Noël solidaire, à la fois dans le prix d'achat et dans l'action elle-même, puisque c'est permettre à la communauté de vivre de façon autonome. Et puis, on est sur aussi un cadeau éco-responsable, puisque c'est de la seconde main. Donc voilà, tout pour plaire.
Parfait. Donc on peut aller faire ces cadeaux à Emmaüs dans cette boutique. Ça sera le 11 décembre, dimanche.
Alors c'est dimanche 11 sur Tarare pour la vente spéciale, où là on a vraiment mis de côté depuis presque un an tous ces jouets qui sont un petit peu exceptionnels. Et avec une grande quantité. Donc ça, c'est particulier à Tarare dimanche. Et effectivement, après, la boutique de Lausanne est ouverte du mardi au samedi, sauf le jeudi où on est fermé, parce qu'on réorganise un petit peu et on range le jeudi. Mais là, dimanche, il n'y a que Tarare qui est ouvert.
Attention, il ne faut pas se tromper d'adresse.
Voilà.
Donc, pour aller, pourquoi pas préparer les fêtes de Noël là-bas, il y a une autre action que vous menez. Alors là, c'est pour... on va faire ces cadeaux de Noël chez vous, mais on peut aussi venir vous apporter des cadeaux de Noël.
Voilà, tout à fait. Donc, une des missions des communautés Emmaüs, et en particulier à Tarare, c'est de contribuer à la solidarité locale, nationale et internationale, puisque Emmaüs est un mouvement international, donc on fait régulièrement, je vous avais parlé la dernière fois, des convois pour les Ukrainiens. Notamment, nous, on intervient au niveau régional sur la communauté en Roumanie, qui est proche de la frontière ukrainienne, et où on participe à envoyer des convois de nourriture et puis de couverture, etc.
Ouais.
Et cette année, on mène une action plutôt à destination des réfugiés migrants sur des boîtes cadeaux. Donc on a déjà commencé, il y a quelques personnes qui nous ont amené déjà des boîtes cadeaux. Alors c'est des boîtes à peu près de la taille d'une boîte de chaussures. Et c'est un cadeau solidaire que nous, on se charge de redistribuer dans les camps de réfugiés et de migrants qui se trouvent sur Briançon, là où avec la frontière italienne, puisqu'on accueille, une structure Emmaüs accueille les gens de passage qui viennent de l'Italie. Et puis sur Grande-Synthe, à Calais aussi, où il y a énormément de gens dehors. pour apporter un petit peu de réconfort, petit élément un peu d'esprit de Noël. Donc l'idée, c'est de récupérer ces boîtes cadeaux avec notamment des produits d'hygiène, et puis ce qui peut être un petit peu un cadeau de Noël. On laisse les personnes qui font ce geste choisir ce qu'elles mettent, ce qu'elles mettent dedans.
Il y a une proposition qui est faite, c'est de mettre un vêtement, un bibelot, un livre, le côté cadeau, un petit mot, quelque chose à manger.
Alors pas périssable, un petit chocolat, des choses comme ça. Je crois qu'au-delà des objets, c'est surtout l'intention et la chaleur qui peut être véhiculée, la chaleur humaine qui peut être véhiculée par ces boîtes cadeaux. J'ai vu, il y avait aussi des jolis emballages, et c'est important parce que, enfin, emballage ou décoration, parce que c'est montrer aux gens qu'on pense à eux et que. Que les conditions inhumaines dans lesquelles ils peuvent être, dans lesquelles ils peuvent se trouver, il y a quand même de la chaleur humaine derrière et le fait qu'on pense à eux, quoi.
Ces personnes-là, c'est généralement des réfugiés qui fuient quelque chose.
Oui, différents pays, à toutes les origines, avec souvent des parcours très longs à pied. Auparavant, des espaces de transition et d'attente avant d'aller sur un autre endroit.
Ouais. Voilà. Et donc, au niveau de Calais, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Grande-Synthe.
Grande-Synthe, c'est un camp de réfugiés, de personnes qui attendent pour éventuellement pouvoir traverser. Ouais. Et donc, ils peuvent attendre pendant des jours et des jours.
Oui, tout à fait, dans des conditions d'accueil. Il y a Emmaüs sur place qui est un lieu d'accueil pour qu'ils puissent se réchauffer quelques jours, mais il n'y a pas une capacité à accueillir tout le monde. Donc on organise, c'est Emmaüs là-bas qui organise souvent des maraudes avec des participants de toute la France, des communautés Emmaüs qui viennent, des compagnons et des bénévoles. Sur des maraudes, c'est des accueils, faire les repas, etc. Et donc là, l'idée, c'est de participer en amenant des cadeaux. C'est une goutte d'eau, c'est une intention qui peut être importante, et nous, ça permet aussi de garder en tête ce pourquoi on est là. Et souvent, ce sont nos compagnons qui eux-mêmes ont vécu parfois, souvent même ce parcours, qui contribuent et qui veulent aller
qui
aider.
Qui motive à faire.
Et à apporter leur aide sur ces actions.
Donc ça veut dire que ça a du sens.
Oui. C'est une goutte d'eau, encore une fois, mais c'est un petit peu de chaleur.
Jusqu'à quand est-ce qu'on peut venir vous apporter ces paquets cadeaux?
Je pense jusqu'au dernier jour de décembre, parce que je pense qu'on fera peut-être ce convoi, pas forcément sur le jour de Noël, mais sur les derniers jours de décembre ou début janvier.
D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il est trop tard si jamais on retrouve dans ces placards des vieux jouets ou des choses à venir vous donner pour...
Ah non, c'est toute l'année. il n'est pas trop tard parce qu'on recueille toute l'année, justement pour préparer ces grandes ventes-là. Et puis on a un rayon jouets toute l'année, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les anniversaires. Ce à quoi il faut penser, c'est effectivement toujours... se dire que plutôt que d'acheter un jouet neuf, allez voir chez Emmaüs ce que vous pouvez trouver. C'est vraiment une filière où il y a beaucoup, beaucoup de volume, les jouets. Et aujourd'hui, le recyclage n'est pas forcément bien organisé. Donc toujours se poser la question de si on ne peut pas acheter de la seconde main en faisant un acte éco-responsable et solidaire, plutôt que d'acheter du neuf.
Est-ce qu'on peut pas donner au lieu de jeter quelque chose qui sera encore utilisable par d'autres?
Je sais qu'on a souvent des enfants qui, accompagnés de leurs parents évidemment, qui après avoir reçu des cadeaux à Noël, font un cadeau soit d'anciens jouets. Ça permet de libérer de la place.
Il faut faire de la place dans les placards parce qu'ils sont pas extensibles.
Tout à fait. Donc moi je vous propose aux parents d'expliquer à leurs enfants que on a reçu beaucoup de cadeaux à Noël et il faut pas hésiter à venir en donner pour d'autres qui ont moins de moyens, et puis aussi pour faire vivre ces lieux solidaires que sont les communautés Emmaüs.
Ouais, et puis emmener le pitchoun, donner ses cadeaux en sachant que...
Ça a un vrai sens d'expliquer.
Ça ira dans les mains d'un autre enfant et ça fera plaisir à un autre enfant.
Tout à fait.
Un joli message. Merci beaucoup Magali d'avoir passé ce moment avec nous.
À bientôt.
Est-ce qu'on peut rappeler quand même les petites infos pratiques, l'Emmaüs de Tarare? Il y a un numéro de téléphone pour vous joindre si on a des questions. Je l'ai, c'est 04 74 63 30 48. Et puis peut-être rappeler l'adresse de la boutique de Tarare.
Alors c'est 29 rue Boucher de Perthes, dans le centre de Tarare. Donc bon, y a la possibilité de se garer à côté, hein, surtout dimanche, là que ça va être fermé. Donc on va être fermé samedi pour pouvoir préparer toute la vente de dimanche.
Ouais.
Et puis vraiment, y a des jolies choses aussi, tout ce qui est déco. Alors Noël, mais c'est aussi pour les tables de Noël avec des nappes anciennes, des jolis verres, des carafes, enfin voilà, des couverts. On peut se faire une table seconde main, ancienne, solidaire et très jolie. Y a vraiment de quoi faire.
Parfait. Merci voilà. Beaucoup encore une fois. À très bientôt.
Merci. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, on écoute M et Lamomali, voici Solidarité.
Yeah, 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 la. Yeah, 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 la.
I don't love a new beat, I mean, I know the world. What is that up for? I got me don't know like me. What the hell they fighting for? Not a man with the blame ring his brother apart. But he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love alone.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
9 de chambre, 7 de chelou, allez, ou allez. 9 de nejmi, 20 ou ni tout doué, 20 ou
constrói amizade até sem querer. Faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
Yeah, 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 yeah.
La grande vie nous a plongé dans sa commune. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus.
Yeah, 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 là. Yeah, 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 là.
Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux lois. Nous sommes les nouveaux lois. Nous sommes les nouveaux lois. Vous êtes les nouveaux lois. Vous êtes les nouveaux lois. Vous êtes les nouveaux lois.
Non, 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 non.
एकता ही परम धर्म है इससे बड़ा न कोई
M, évidemment, sur Calade avec Lamomali et le morceau s'appelait Solidarité.
Ensemble sur Calade.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Et oui, il est avec nous, le coach. Bonjour.
Salut, gamin.
Bon, vous allez bien?
Ben, ça va bien.
Tant mieux, tant mieux. Vous nous parlez en ce moment, là, depuis le début de la saison, de dilemme.
Oui.
Est-ce que vous allez continuer dans cette thématique?
Ah mais complètement. là, on va continuer dans nos expériences de pensée à l'aide des paradoxes philosophiques, des dilemmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un célèbre dilemme. On l'appelle le dilemme du tramway.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça c'est connu.
Alors, on a de la chance, il n'y en a pas en grève aujourd'hui, donc on va pouvoir le faire. L'énoncé de ce dilemme est assez simple, même s'il existe plusieurs variantes. Voici l'histoire. Un tramway est hors de contrôle. Le conducteur ne réussit plus à arrêter son tramway ni à freiner. Et le problème, mes louloutes, c'est qu'à 100 mètres plus loin, 5 ouvriers sont en intervention sur la voie. Le conducteur fait sonner son carillon, mais le bruit des travaux empêche les ouvriers de l'entendre. Et le tramway arrive beaucoup trop vite. La situation est stressante, l'angoisse est à son paroxysme, j'espère que chez vous aussi. Pour résumer la situation, sans intervention du conducteur, les 5 ouvriers seront irrémédiablement écrasés. La seule action que peut faire le conducteur, c'est actionner à distance l'aiguillage qui se situe devant les ouvriers pour détourner le tramway sur une voie de délestage. Mais malheureusement, comme la vie est mal faite, sur cette voie, il y a un homme qui s'est accroupi pour refaire ses lacets. Et lui, bon, il est là, il est peinard, il a fait ses lacets, il n'a pas vu le tramway non plus. Donc en gros, le conducteur n'a même pas une seconde pour prendre sa décision face à ce dilemme qui se présente à lui. Ne rien faire et écraser les 5 ouvriers, ou actionner l'aiguillage et écraser l'homme qui lasse ses chaussures et qui pensait être en sécurité sur une voie de délestage où aucun tramway ne circule jamais. Ouais. Alors, je te pose la question, gamin, et puis je vous la pose aussi à vous, mais louloute, que feriez-vous à la place du conducteur ?
S'arracher les cheveux, je pense.
on a moins d'une seconde pour réagir, donc là, ouais. Pas facile de répondre. Hein.
C'est extrêmement dur, ouais.
Ou plutôt, parfois, facile de répondre trop vite. Parce qu'une fois que l'on soulève, enfin qu'on répond à ce dilemme, ça soulève beaucoup de questions éthiques. Parce que souvent, on ne va pas se mentir, la première intention, hein, souvent les gens, ils ont envie de répondre, bon, ben que 5 vies valent plus qu'une seule, et donc on choisit de détourner le tramway pour épargner les 5 ouvriers, et écraser et sacrifier l'innocent ou lasser des faits.
Ouais.
Soit, effectivement, on peut comprendre la logique morale de ce raisonnement, 5 vies sauvées valent peut-être plus qu'une vie sacrifiée.
Oui.
Bon, du moins, on peut le comprendre dans un premier temps, parce que changeons un peu le décor tout en gardant le même dilemme. Dans un hôpital, 5 patients sont en attente d'une greffe pour leur sauver la vie. Chacun a besoin d'un organe différent. Au même moment où ils sont présents dans l'hôpital, un jeune homme vient en consultation, il est en bonne santé. Et le hasard faisant bien les choses, il est compatible avec les 5 patients qui risquent de mourir sans une greffe rapide. Finalement, le médecin est soumis au même dilemme, prendre la vie d'un homme pour en sauver 5.
Ah, là, il le tue volontairement.
Eh ben, dans le cas du tramway aussi, il oui. actionne l'aiguillage et il va volontairement tuer cet homme qui refait ses lacets pour sauver les 5 autres.
Ah, ouais.
Mais vous remarquez avec ta réaction, gamin, que dans cette version-là du dilemme, notre morale nous interdit de faire ce choix. Alors pourquoi trouvons-nous ça plus moral, plus normal de le faire en tant que conducteur de tramway ? Je vous invite à y réfléchir. Le dilemme du tramway a longtemps été un exercice de pensée abstrait, mais il devient maintenant une réalité étudiée pour les véhicules autonomes dont on nous prédit l'arrivée prochaine. En effet, une voiture autonome risque d'être confrontée à des situations qui se rapprochent du dilemme du tramway. Ces véhicules doivent être programmés pour pouvoir faire face à des choix et face à ces dilemmes. Et premièrement, on doit se demander si la voiture autonome doit garantir en toutes circonstances la sécurité de ses passagers ou doit-elle, en certaines circonstances, les sacrifier pour sauver des personnes qui sont présentes dans l'espace public.
Ah oui.
Et oui, si les passants qu'elle risque de percuter sont plus nombreux que le nombre d'occupants dans le véhicule, qui doit-on privilégier et comment doit-on programmer le véhicule autonome pour réagir ? Que faire s'il y a des enfants dans le véhicule ou parmi les piétons qui risquent d'être écrasés ? Et si les piétons sont des personnes âgées, doivent-elles être préservées en raison du respect du aux aînés ou doit-on les sacrifier car ils ont déjà vécu la majeure partie de leur vie ? Comment doit réagir un véhicule autonome face au choix d'écraser une personne qui respecte le passage piéton ou écraser un groupe de personnes qui ne respectent pas les règles d'occupation de l'espace public. Ce que pose comme problème ce dilemme, c'est la hiérarchisation de la valeur de la vie. Et pour répondre à ces questions, Une grande consultation internationale a été lancée il y a quelques années pour anticiper le problème qui allait être posé par les voitures autonomes. Les participantes et les participants devaient faire des choix, comme dans le dilemme du prisonnier, assez rapidement, pour savoir, selon la situation, le choix qui était le plus acceptable. Et ce que l'on a remarqué, c'est que les réponses diffèrent en fonction des cultures. Ainsi, dans les cultures où le respect de la règle et de l'organisation domine, les personnes qui ne respectent pas les règles, comme traverser en dehors des passages piétons, eh bien, sont plus facilement sacrifiées dans ces pays-là que dans les pays où l'on a l'habitude de s'arranger avec le cadre et avec le code de la route. Alors, je ne citerai aucun pays pour ne pas faire de tort à nos amis italiens, mais voilà, on peut se poser la question... de ce qu'il convient de faire. Et on voit bien que les choix de société sont différents d'un pays à l'autre. Et puis, dans certains pays, on a plutôt tendance à sacrifier les personnes âgées que les enfants. Alors que dans d'autres pays, eh bien, c'est le contraire. Le respect dû aux anciens fait qu'on ne peut pas imaginer écraser une personne âgée avec tout le savoir qu'elle a pu emmagasiner tout au long de sa vie. En réalité, ce dilemme du tramway, il est vraiment rentré dans notre culture, dans la culture populaire et même dans la culture pop, parce que vous trouverez plusieurs références à cette expérience de pensée dans des séries. D'ailleurs, il y a une série qui s'appelle The Good Place, où un épisode entier lui est consacré avec vraiment une mise en scène de ce dilemme-là, avec les ouvriers, avec un tramway, et avec un pauvre docteur en philosophie qui, une fois sur le tramway, loin de toutes ses théories, doit faire des choix. Et c'est vraiment très, très drôle. Et puis, vous trouverez aussi de nombreuses vidéos de mise en scène de ce dilemme avec des enfants, et leur train en bois avec des Playmobil. Et de voir comment les enfants, avec leur toute jeune morale, vont gérer ça, c'est aussi très intéressant. En tout cas, cette expérience de pensée, elle permet de nous interroger vraiment sur ce qui fait la valeur de la vie. Et ce dilemme, il pose aussi la question du choix et du non-choix. Et je terminerai avec cette question en suspens. Ne pas intervenir et laisser le tramway écraser les cinq ouvriers, est-ce un choix ou un non-choix?
Choisir, c'est renoncer, paraît-il.
C'est vrai, gamin.
Et moi, je propose aussi... Il y a un jeu de société qui s'appelle Dilemme Express, et c'est le même principe. On a deux voies de tramway, on met des cartes dessus pour changer un peu la situation, et il faut choisir qui est-ce qu'on écrase ou pas. Un jeu assez cynique, mais ça peut être drôle pour s'essayer à ce dilemme moral. Voilà. Merci beaucoup, coach.
Mais je t'en prie, gamin, et puis surtout mes louloutes, je vous souhaite un bon mois de décembre et de belles fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup, à très bientôt à vous aussi.
Ensemble sur Calade.
Allez, j'ai pas trouvé de chanson sur un tramway et un dilemme. J'ai plutôt trouvé de voitures qui écrasent des animaux. C'est Stupéflip, les cages en métal.
Traumatisé par les cages en métal. Trop de poumons. écrasés, hérissons écrasés, écrasés par les cages en métal. Trop de gens traumatisés,
de gens traumatisés,
traumatisés
dans les cages en métal.
Un petit peu de prévention routière proposée par le groupe Stupéflip, les cages en métal.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Allez, c'est une libraire qu'on a aujourd'hui, c'est Marie qu'on retrouve. Bonjour.
Bonjour.
Alors, de quoi allez-vous nous parler ?
Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite sélection des super BD de fin d'année à offrir ou à s'offrir d'ailleurs, parce qu'on a de très belles sorties graphiques pour cette fin d'année qui sont de bonnes idées à glisser sous le sapin.
Très bien, par quoi on commence ?
Alors, on commence par un roman graphique absolument qui est mon gros coup de cœur de cette année, qui s'appelle « Perpendiculaire au soleil ».
Okay.
Écrit par Valentine Cuny-Lecalais chez Delcourt. Donc c'est un livre graphique qui est tiré de sa propre histoire, puisque Valentine Cuny-Lecalais, c'est une jeune femme qui a 19 ans, suite à des événements dans sa vie, décide via une association d'entreprendre une correspondance avec un condamné à mort aux États-Unis.
Ah oui.
Et voilà, donc
c'est pas ce qu'on fait tous les jours.
Voilà, disons que bon, ça sort un peu de l'ordinaire, quoi. Ouais. Et elle va retranscrire en fait cette histoire et cette correspondance au travers de la BD. C'est un projet qu'elle a mené avec le détenu, puisque lui dessinait aussi. Et donc on va suivre cette correspondance-là. Mmh. Et c'est une BD en noir et blanc. C'est qui contient aussi des scans de planches qui ont des gravures sur bois. Et puis des dessins absolument sublimes, quoi, et l'histoire absolument bouleversante de ce détenu et de Valentine Cuny-Lecalais qu'elle évoque aussi à travers les pages. Donc vraiment une BD, un objet livre fabuleux, quoi.
D'accord. Et c'est vraiment correspondance qu'on peut lire, les dessins qui s'envoyaient.
Tout à fait. C'est ça. Et d'ailleurs, on a même à certains moments des extraits de lettres que le détenu a envoyées qui ont été découpées à cause de la censure à l'entrée de la prison. Ah. Donc il y a des extraits qui ont été découpés au caviardé et on voit tout ça dans l'ouvrage. C'est absolument sublime et ça c'est vraiment la réalité pure, quoi. Donc ouais. C'est magnifique.
Perpendiculaire au soleil, c'est noté.
Tout à fait. Ensuite, on change radicalement de registre avec Les Pizlis, qui est une BD toujours chez Delcourt, de Jérémy Moreau. Donc là, on est dans quelque chose de complètement différent, puisque c'est purement de la fiction. Les Pizlis, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a la charge de son petit frère et de sa petite sœur suite au décès de leurs parents. Un jeune homme qui est épuisé, qui travaille comme chauffeur Uber pour réussir à boucler les fins de mois. Mmh. Et un jour, il a un accident avec sa voiture de fonction. Et la personne qui était à l'arrière, qui est une vieille dame, se retrouve un petit peu avec lui à pas trop savoir quoi faire. Il la ramène chez lui et elle lui dit « Vous avez besoin de vacances. Je rentrerai justement chez moi en Alaska. Venez avec moi, avec les deux enfants, et venez découvrir Alaska. »
Okay.
Donc là, en voyage, c'est très différent.
Ouais, ouais.
On va découvrir les aurores boréales, on va découvrir cette nature en Alaska absolument sublime à travers les couleurs qui pètent de Jérémy Moreau, du rose fluo en passant par le bleu comme ça, le bleu du lever de soleil en Alaska. C'est sublime. Mmh. C'est une description de la nature qui est extraordinaire et c'est très, très poétique.
Très bien. Moi, je viens de trouver l'image de la couverture et c'est vrai que c'est magnifique.
Et les aurores boréales. Voilà, tout est dans ces couleurs-là. C'est de la poésie colorée et de la poésie des mots aussi. Ouais. C'est absolument magnifique.
Les Pizlis, Jérémy Moreau.
Tout à fait, c'est ça.
Allez, je le rajoute à la liste.
Pizlis, c'est un mélange en fait entre Grizzly, c'est une espèce qui serait apparue en Alaska, en tout cas d'après l'ouvrage de Jérémy Moreau, un hybride entre les grizzlies et les ours polaires, donc Pizlis.
D'accord, comme des grizzlies blancs.
C'est ça, tout à fait.
Ok, super.
Ensuite, on a aussi dans ces livres qui célèbrent la fin d'année de façon merveilleuse, on a le très beau Shibumi de Pat Perna et Jean-Baptiste Eustache à la maison d'édition Les Arènes. Donc c'est une adaptation graphique du roman qui était paru chez Gallmeister de Trévianan ans. Et c'est une adaptation graphique qui est absolument très réussie. Là, encore une fois, on change de registre. Aujourd'hui, ouais. C'est très éclectique.
Il y en aura pour tous les goûts.
Voilà, exactement. Là, on est avec un ancien espion qui s'est retiré des affaires, un ancien tueur à gages même, qui s'est retiré des affaires, qui n'est plus du tout en service, qui s'est retiré dans l'ouest de la France. Donc cette fois-ci, on est quand même un peu plus local. Mais on va, à travers son histoire, explorer la culture japonaise, puisqu'en fait, il a été élevé au Japon, à travers cette espèce de concept méditatif qui est le Shibumi, dont lui il se servait pour assassiner des gens, mais qui est en fait se retirer en soi-même et voilà, c'est apporter la paix et être zen, et c'est empreint de toute cette zénitude japonaise, et en même temps on est quand même sur l'histoire d'un tueur à gages retraité, donc
il y a un peu de violence,
qui est obligé de reprendre du service.
D'accord, ok. Donc Pat Perna, Jean-Baptiste Eustache, Shibumi. C'est un roman graphique, c'est pas un manga.
Non, voilà, c'est vraiment un roman graphique. Ça fait à peu près 200 pages, un peu plus de 200 pages. Et c'est l'adaptation du roman. Hein,
okay.
Donc c'est vraiment la même construction que le roman.
D'accord. Moi, juste en voyant la couverture, j'ai envie que ce soit une série avec plein de tomes à suivre.
Exactement. Mais alors bon, c'est un tome unique, mais dedans, on a tellement de destins entrecroisés, parce qu'on va suivre aussi. Il est obligé de reprendre du service à la suite d'un attentat, et on va suivre un peu aussi toutes ces équipes qui s'entremêlent. Enfin, c'est brillant. Hein, c'est magnifique.
Super. qu'est-ce qu'il y a d'autre alors à mettre sous le sapin?
Sous le sapin, on a également le retour d'Emmanuel Lepage, qui est notre dessinateur baroudeur préféré. On l'adore à la librairie. Il est, comme d'habitude, publié dans la maison d'édition Futuropolis, qu'on adore aussi. Et donc là, il nous présente son livre « Cache-cache-bâton », qui est, encore une fois, magnifique. Des dessins absolument sublimes. Et d'habitude, Emmanuel Lepage nous emmène au fin fond de la mer, des montagnes et j'en passe. Cette fois-ci, il va revenir sur l'histoire de ses parents. Son père qui a été un vrai voyageur et dont il s'est beaucoup inspiré pour ses précédentes BD. Et dans Cache-cache-bâton, dans celle-ci, il va parler de l'histoire de ses deux parents, puisqu'ils ont vécu, quand lui était enfant, dans une communauté, en fait, dont il explique le principe. Et comment est-ce qu'ils en sont venus à vivre dans cette communauté-là. Et il va revenir, du coup, sur plein d'épisodes de l'histoire de France qu'ont vécu ses parents. Et c'est passionnant, parce que c'est un vrai voyage dans le temps. Et l'histoire de ses parents est hyper touchante. Donc, voilà. Et puis l'histoire de la communauté dans laquelle il a vécu en Bretagne, pareil, c'est vraiment très, très chouette.
Très bien. Et pareil, j'ai l'impression que les illustrations sont super jolies aussi.
Comme toujours avec lui, en plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aquarelles, beaucoup de crayonnés aussi. Enfin, c'est un mélange absolument magnifique de plein de techniques comme ça, graphiques, qui donnent un vrai objet livre superbe.
Cache-cache-bâton de Emmanuel Lepage. On a peut-être le temps pour une dernière proposition. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre dans la
liste? Une dernière proposition avec à nouveau un auteur qu'on ne présente plus, Rochette, qui est un auteur, pour le coup, 100% montagne. donc lui est publié chez Casterman. Et en cette fin d'année, il nous présente son livre « La dernière reine ». Qui est donc un troisième, pas vraiment un troisième tome, parce que c'était pas une trilogie, mais un troisième ouvrage de sa saga montagnarde. Dans La dernière reine, on est avec Édouard Roux, qui est une gueule cassée de 14-18, donc là, encore une fois, nouveau registre.
Ouais.
Et donc, Édouard, il décide d'aller trouver une sculpteuse pour lui faire un masque, pour justement cacher sa gueule cassée. Et il va tomber sur Jeanne Sauvage, sculptrice animalière. Elle va lui faire découvrir le monde des arts de Montmartre, post-Première Guerre mondiale. Et lui va lui faire découvrir son Vercors adoré, la beauté de ces montagnes sauvages. Et c'est extrêmement touchant, c'est poétique. Et pour tous les amoureux de la montagne, mais aussi des arts, c'est à lire et à se procurer rapidement.
Parfait. Jean-Marc Rochette, La dernière reine. Ça fait voilà. Un peu penser à Au revoir là-haut, les masques pour les gueules cassées, je sais pas.
Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là, la base de l'histoire, tout à fait.
Très bien. Et ben merci beaucoup pour cette sélection.
Ben, merci à toi.
À tout bientôt, au plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne fin d'année.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah c'est là-dessus que va se terminer notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous la retrouverez bien entendu en réécoute sur radio-calade.fr, rediffusion demain matin à 10h. Dans quelques minutes, dans moins d'une minute, vous retrouverez vos pages d'information quotidiennes, le journal de RFI suivi du journal de Sylvie Rosier. Et à partir de 14h, ce sera l'heure de la 101e, votre émission de jazz présentée par Georges Boton. Et à 15h, l'émission L'Imaginoire, une émission réalisée avec des malvoyants ou des personnes atteintes de déficience visuelle. Voilà ce qui vous attend dans les prochaines heures à l'écoute de Calade. Bonne journée, à tout bientôt. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.